France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Raymond Depardon est notre invité pour cette deuxième partie des matins d'été. Bonjour Raymond Depardon.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Depardon USA, c'est à la fois le titre du livre de photographie que vous avez fait paraître fin juin dans les très belles éditions Xavier Barral. 76 photographies, dont certaines inédites, que l'on retrouve aussi à Arles jusqu'au 23 septembre. Des photos prises de 1968 à 1999. Alors on va entamer avec vous un road trip à travers les États-Unis. Raymond Depardon, point de départ, le tarmac de l'aéroport de Sioux City dans l'Iowa. Nous sommes en 1968. Vous êtes jeune photographe pour l'agence Gamma et vous suivez Nixon dans sa campagne présidentielle. Et est-ce que vous vous rappelez de cette première photo qui démarre le livre, qui démarre l'exposition, le moment où Nixon descend de l'avion?
Oui, alors ça, je m'en souviens parce que c'est la première fois que je faisais une campagne présidentielle américaine. Elle était extrêmement bien organisée. Il y avait un avion pour la presse, photo technique, les photographes. L'avion technique se posait toujours le premier et partait le dernier. Donc en fait, on était tous à la passerelle là, à attendre. Et moi, je me souviens, il faisait assez froid, c'était le matin. Voilà, et il y a un monsieur qui était là avec un drapeau et il y avait du vent, et puis il est sorti, il a fait le grand V comme ça en écartant les bras, un peu comme le général de Gaulle. Et puis j'ai hésité même à faire la photo tellement c'était gros comme ça. Je me suis dit c'est pas vrai comme ça, parce qu'ils ont toujours ce côté de mettre des drapeaux de partout, ce qui est pas notre cas. Nous, on a rarement ça, les drapeaux, un petit peu en politique, les drapeaux sont pas si présents que ça en France, ou alors ça signifie quelque chose peut-être.
C'est vrai que là sur votre photo, le drapeau est tellement présent, tellement près qu'on peut presque le toucher. On sent la matière un peu fripée de ce drapeau américain qui presque descend sur Nixon, lequel est en train de sortir comme un joker, voilà. Le joker des jeux de cartes de son avion, de cette carlingue d'avion.
Oui, elle est faite. Alors c'est étrange parce qu'à cette époque, je travaillais beaucoup au Nikon, c'était l'appareil des reporters photographes. Et puis j'ai même plus fait attention à cette photo, j'ai complètement oublié. Et puis je crois que je suis repassé vers Times Square, il y avait beaucoup sur la 42e rue, là, il y avait beaucoup de libraires, de marchands de journaux. Puis j'ai tombé sur un journal italien, j'ai dit, il y a un photographe italien qui a fait la même photo que moi. J'étais photographe, en fait c'était la mienne. Voilà, ça c'était une première introduction. En 68, en fait, j'étais déjà venu en 63, mais j'avais pas fait de photo.
Vous étiez juste arrêté, hein, c'était voilà. Une escale.
Et je me souviens bien parce que il projetait 2001, l'Odyssée de l'espace à Times Square, et j'avais vu ce film là au même moment, et c'était complètement surréaliste pour moi comme ça, cette Amérique. Avant, j'avais été faire la convention démocrate parce que en fait. Mai 68 s'est déclenché plus tard aux États-Unis, donc en juillet, août. Mais la différence entre la France et les États-Unis, c'était la guerre du Vietnam. Donc en fait, les manifestants de quartier latin, eux, ils faisaient un peu référence à la guerre du Vietnam, mais pas trop.
Bah, à partir du mois de novembre, il y a énormément en France de manifestations. Oui. 28 novembre, je crois 60 000 jeunes communistes dans les rues contre la guerre du Vietnam. Et vous, forcément, vous le savez, vous en venez de Paris.
Voilà.
Et vous avez ça en tête, donc c'est vous qui décidez de quitter Nixon que vous suiviez donc pour sa campagne présidentielle. C'est vous qui décidez d'aller voir les à côté et d'aller voir ce qui se passe dans les rues.
C'est ça, oui, un petit peu, où il y a effectivement cette convention démocrate qui est un espèce de barnum incroyable, rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Je me souviens bien parce qu'on m'a donné un laissez-passer avec une aspirine et puis le temps de pause pour régler sur mon appareil photo en fonction du film, la Kodak, etc.
On vous donne le temps de pause.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai fait des photos à l'intérieur, ils étaient tous habillés en cow-boy, ils étaient tous à parler comme ça. Il y avait Humphrey. En fait, le candidat contre Nixon était Humphrey. Moi, j'avais déjà vu un tout petit peu, j'avais entendu parler des premières expériences de cinéma direct, de cinéma documentaire, qui avait été la fondation, la fondation du cinéma documentaire. C'est 1960, c'est la campagne de Kennedy. C'est vrai que là, j'étais déjà un photographe un peu expérimenté. Et comme on avait fondé cette agence Gamma, une espèce de... On avait mutualisé tous nos moyens ensemble. Gilles Caron avait incroyablement bien travaillé sur mai 68. Moi, il se trouve que mai 68, j'étais au Golfe Persique, la fondation d'ailleurs de l'Abu Dhabi, hein, du Golfe Persique. Et donc, j'avais raté mai 68. Et donc, je me suis rattrapé un tout petit peu sur Chicago.
Et la marche sur le Pentagone commence. Un groupe chante le célèbre refrain de Tom Paxton. Lyndon Johnson a dit « N'ayez pas peur, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, non, non. Mais on envoie 500 000 hommes pour protéger le Vietnam des Vietnamiens. »
Il y a parmi les 76 clichés que vous publiez, Raymond Depardon, ces clichés américains, il y en a un qui est incroyablement ressemblant de celui que Marc Riboud avait fait un an plus tôt à Washington, la jeune femme à la fleur. Et vous avez photographié une jeune femme comme ça, stoïque, pacifique, devant des soldats armés de l'armée américaine. Le même visage, elle a la même coiffure, elle a tout pareil, sauf que ce n'est pas une fleur qu'elle brandit.
Oui, ça c'était... Les universités ont été très touchées par la guerre du Vietnam. En fait, c'était des étudiants, vous savez, ils partaient. Moi, j'avais été au Vietnam, bien sûr, en 64-65, comme photographe et tout. Et j'avais assisté un tout petit peu à l'arrivée des Américains. Et donc, c'est vrai que les étudiants, ils étaient là, en blue jean. Il y avait cette musique, cette chanson. Il y a beaucoup de choses qui nous rattachent à l'Amérique hein, à ce moment-là. Le rêve américain était toujours là.
Puis vous les aviez vus arriver, les Américains, dans la vallée de la Saône, à la Libération.
Oui, c'est vrai que... Mais c'est vrai que c'est une période incroyable. Ça peut paraître paradoxal maintenant. Pas paradoxal, mais un tout petit peu différent. Il y avait beaucoup de choses qui nous fascinaient sur l'Amérique, hein, bien sûr. La musique, les droits de l'homme aussi. Peut paraître paradoxal. Moi, je sais d'autant plus que mes confrères, Weissman et Leacock, peuvent filmer tout. Les institutions doivent être transparentes, donc ouvertes aux caméras. Alors que nous, on en était... Moi, j'avais pas encore tourné, ou je commençais à tourner un commissariat, un asile psychiatrique, mais c'était encore très difficile. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de la liberté. Et les photographes aussi, peut-être, avaient mieux tourné la page de leur... père au réciproque, c'est-à-dire nous, on avait Cartier-Bresson, Doisneau, etc. Bon, ils étaient encore très pesants sur notre société. On était enfermés encore dans une espèce d'humanisme. Eux, ils avaient beaucoup plus tourné la page. Et moi, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis aperçu qu'ils ont abordé certains sujets, certains thèmes, comme la ruralité, sans le pétiniste. Ça paraît comme ça. Oui, bah oui, mais il y a encore pas très longtemps, on me faisait des allusions à ça quand j'ai tourné mes films. Et c'est vrai que, et le paysage, et la ruralité, et une certaine façon de photographier sans sujet, était quand même déjà abordé par les photographes américains.
Alors avant d'explorer la ruralité américaine, en 81, vous allez à New York pour le congrès annuel de Magnum et Libération l'apprend. Donc là, on comprend que Serge Julie en profite, forcément vous appelle et disent « s'il vous plaît, travaillez pour nous ». Une photo par jour, une photo et une légende par jour, c'est votre défi. Et vous dites que cette correspondance new-yorkaise marquera un tournant dans votre parcours photographique.
Oui, parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses à cette époque. J'avais démarré très tôt, trop tôt peut-être à 18 ans. J'avais pas fait d'études. Donc j'avais déjà fait beaucoup de guerres civiles, le Vietnam, l'Algérie, tout ce qu'on peut imaginer. J'étais un peu fatigué, en fait. En fait, j'étais même à ramasser à la petite cuillère. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Tu vas où, là? Bon, je dis, je retourne à New York. Bon, très bien. Tu peux nous envoyer une photo tous les jours. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et en fait, c'était une formidable expérience puisque j'étais encore très rattaché aux journalistes à cette époque-là. Donc moi, pour moi, faire des photos, c'était par rapport à l'information. Et c'est vrai que donc j'ai suivi les photographes du New York Times qui allaient faire des petits faits divers dans la ville. Et puis un jour, les Unions, ils se sont dit « qu'est-ce que c'est que ce photographe français qui est là en permanence dans la salle de photographes ?» Ils m'ont refusé. Et donc je me suis retrouvé effectivement plus à... à plus rien raconter. Et en fait, ça a été formidable pour moi, puisque je me suis baladé dans les rues et j'ai commencé cette correspondance avec des textes que j'envoyais tous les jours.
Vous arpentez les grandes avenues de Manhattan. Alors, c'est difficile de rendre compte à la radio de la complexité d'une photo et de sa composition, mais il y a ce vendeur de journaux, coupe afro et dont les lèvres charnues invitent à acheter le dernier numéro du journal Tonight, adossé contre un mur. Il y a cet homme en costume cravate à carreaux avec un énorme sparadrap blanc sur le nez et qui tient contre sa poitrine un magazine porno avec un texte de Norman Mailer, apparemment. Vous, quel contact vous avez eu avec ces Américains? Vous avez en tête, j'imagine, les photos de Robert Frank. Vous aviez son livre, il était paru 10 ans auparavant en France. Oui, vous l'étiez procuré.
Oui, il était même soldé aux États-Unis, parce que les Américains n'avaient jamais trop plu aux Américains, d'ailleurs.
Donc il était soldé parce qu'il ne se vendait pas aux États-Unis. Ouais, voilà. Mais vous l'avez et vous sentez quelque chose, vous sentez l'esprit de Robert Frank à ce moment-là qui...
Oui, bien sûr, parce que en fait, j'avais jamais photographié des gens, des kidam, des gens de tous les jours, de tout le monde, dans la rue. Moi, j'avais photographié le pape, la reine Elisabeth, Brigitte Bardot, mais je savais pas photographier les gens. Et j'avais même peur d'eux. C'est complètement fou, parce que j'avais peur de photographier des gens dans le métro, dans la rue. Et il a fallu que je me fasse un effort. Et effectivement, les États-Unis ont été un endroit où, comme d'une tradition anglo-saxonne, quand on fait des photos, sauf si on insiste lourdement, mais en tous les cas, les gens disent rien. L'espace public est un espace public qui n'existait pas du tout de la même manière en France. D'ailleurs, au point de vue droit aussi, il n'existe pas de la même manière. Il a fallu attendre les années 2000 pour que la Cour de cassation nous protège, nous, photographes, dans les lieux publics. Là, en tous les cas, faire des photos comme ça, dans la rue, des passants, l'espace public. Moi, j'avais peur et j'ai été terrorisé. Et puis, je me forçais. Alors, je faisais très vite. J'apprenais à bouger. Et puis, j'apprenais... En fait, je savais pas quelle était ma distance de photo, quoi. J'ai travaillé beaucoup au grand angle à cette époque-là pour marquer ma présence. Et puis, j'avais déjà, depuis longtemps, j'avais lu un peu les textes de Barthes, qui était un petit peu intéressant parce qu'il disait sur une photo, soit le texte est ancrage, soit il peut être relais. C'est-à-dire, on peut parler d'autre chose. Et ça m'avait fasciné. C'est comme ça que j'ai fait cette photo de Park Avenue, où, voilà, j'ai fait un lavabo à Park Avenue, et on voit toute l'avenue derrière. Et puis, je sais pas, le jour même, j'ai pensé à mes parents, qui étaient toujours à la ferme du Garret, et qui faisaient les foins. Et je sais pas pourquoi, sans vous faire exprès, comme ça, j'ai parlé des foins de la ferme du Garret avec mes parents. J'ai dit, ils doivent avoir chaud, etc. Je savais que c'était un moment un peu tendu parce qu'il y a des orages et tout, faut aller vite, et il risque. Et puis, j'ai mis cette photo de Park Avenue, l'avenue la plus riche du monde, sur mon texte de la ferme du Garret. Et c'est assez gonflé quand même.
Des foins de la ferme du Garret à Park Avenue.
J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York USA.
New York, USA, Serge Gainsbourg, 1964. Ben oui, c'est au New York, une ville debout, comme l'écrivait aussi Céline dans Voyage au bout de la nuit. L'américaine, là, elle se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout, raide à faire peur. Bon, c'était plus de 30 ans avant votre arrivée. Vous, quand vous arrivez, Raymond Depardon, à New York, c'est quoi votre impression? C'est la première fois?
Ah ben, on a la tête en l'air, comme ça, un peu comme toute la première fois qu'on y va. Après, ça va mieux. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup... En fait, c'est très étrange parce que, comme j'avais travaillé avec Basaglia, et Basaglia m'avait dit, va photographier Venise près de la gare. C'est un grand hôpital psychiatrique, Venise. Et en fait, New York aussi, c'est un grand hôpital psychiatrique, quoi. Donc,
hôpitaux psychiatriques que vous aviez photographiés en Italie, voilà. L'année précédente, en fait.
Voilà, c'était absolument. Juste avant. Et c'est vrai qu'aussi, c'est un endroit où on peut faire des travelling. Parce qu'on peut pas se perdre à New York. Et on peut marcher très longtemps comme ça, et on rencontre. C'était déjà une région, une ville très moderne, parce que elle était déjà multiculturelle, quoi. Parce que il y avait déjà, tout était mélangé, même s'il y a des quartiers chinois ou des quartiers plus quelque chose, des quartiers riches. Mais c'était quand même une ville incroyablement stimulante. Ça m'a sauvé la vie, en fait, parce que je savais plus quoi faire. Gilles Caron avait disparu, Michel Laurent aussi, tout ça avait disparu. J'étais tout seul un peu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme photo? qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais courir encore après une guerre civile quelque part? Et puis la prochaine fois, ça sera à moi, quoi. Et c'est vrai que ces photographes, les grands photographes, il y avait Franck, mais il y avait aussi toute une nouvelle génération. Et ils étaient incroyablement, ils avaient déjà photographié en couleur, ils photographiaient au coin de leur rue, au coin des cafés, tout ça. Et c'était déjà, ils abordaient une transformation de la photographie très moderne.
Raymond Depardon, en 1982, vous prenez la route, vous vous éloignez des villes grouillantes qui vous ont pourtant offert tant de visages, vous sillonnez l'ouest des États-Unis, du Nouveau-Mexique à la Californie en passant par le Colorado et le Nevada. Vous vous sentez l'âme de Walker Evans, le photographe de la Grande Dépression que vous citiez tout à l'heure, qui fixe les visages incroyables de ces familles de métayers de l'Alabama, la famille Burroughs. Elle est présente, la photo du visage de cette femme, de la famille Burroughs, elle est présente toujours. Est-ce que vous avez cette démarche-là, ou celle peut-être de Dorothy Lange qui, elle allait un peu au hasard et qui s'arrêtait dès qu'elle trouvait quelque chose qui l'intéressait?
Oui, mais je cherche pas à les copier, à les imiter. Je veux dire, voilà, je connaissais, c'est toujours notre Bible. Hein. J'ai beaucoup repensé à eux, à Walker Evans et Jamadi, quand j'ai fait Les Paysans en France plus tard, parce que rentrer dans une ferme, c'est toute une épreuve. Il faut être introduit et c'est assez complexe comme ça. On rentre pas dans une ferme comme on veut.
Et ils y sont restés des semaines comme vous,
oui,
en fait.
Voilà. Et ils ont eu la même démarche. Ils ont été pas très bien reçus. Et puis il y a eu un orage. Et puis ils ont dormi dans leur voiture. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, un peu en douce, regarder à l'intérieur de la ferme, de la maison en bois. Et puis ils sont restés avec eux. Donc comme ça. Et en fait, moi j'ai fait la même chose quelque part dans les Cévennes. C'est de rester, de plus bouger, l'unité de temps, et d'inspirer, de rentrer avec une confiance avec les gens. Et moi aussi, ça m'a pris des mois et des mois avec des paysans des Cévennes, etc. Donc c'est vrai que ça m'a plus aidé après pour faire, si vous voulez, les États-Unis, ça te donne une envie de se dire, bon, voilà, ce sont des très grands techniciens en cinéma, en photo, tout ça. Ils ont le meilleur matériel au monde. Mais je me suis dit, bon, d'accord, ils sont les meilleurs sur leur territoire. Moi, je parlais pas très bien anglais, d'ailleurs. Mais moi, par contre, je suis très à l'aise en Afrique. Eux, ils sont paniqués en Afrique. Il leur faut des guides, des fixeurs, etc. Mais si j'applique cette méthode en Afrique, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc, moi, c'est une bonne base et une bonne école. Et c'est vrai que de se balader aux États-Unis dans le désert américain, d'abord c'est une leçon. Je vais y retourner d'ailleurs, moi, je sais, parce qu'on peut toujours le photographier. C'est tarte à la crème. Alors c'est très étrange. Ils continuent toujours à photographier le Grand Canyon et l'Ouest américain régulièrement. Ils y vont. Et alors que nous, effectivement, on n'a pas du tout. Moi, quand j'ai fait la France, moi, sans doute d'avoir fait la France, c'est parce que j'avais vu les photographes américains travailler sur leur territoire.
Vous voulez dire pour la Datar,
cette mission? Oui, pour la Datar. Puis après la France. Que j'ai fait plus tard. Or, comme on disait, mais la France, tu n'y arriveras pas, c'est trop grand, etc. Bon, bien sûr. Alors, donc, c'est vrai que ils ont modernisé la façon de filmer et de photographier. Ils ont toujours montré le désert. Ils ont eu cette façon de montrer le désert à travers les westerns, qui est toujours un challenge de photographier le désert. Comment on photographie le désert?
Et oui, rien n'est frontal, il n'y a rien à conquérir, il n'y a pas de fronton, mais il n'y a pas de mur non plus, et les murs, vous ne les aimez pas?
Non, j'aime pas les murs.
Oui, j'aime pas les murs. Alors, les Américains aimaient les photographes français. Walker Evans citait souvent Eugène Hadjett, le photographe du Vieux Paris, mais peut-être aussi que les cinéastes américains sont inspirés de vos photos, et je pense à Wim Wenders pour Paris, Texas. Il y a dans une de vos photos un personnage qui marche avec sa mallette dans le sable en bord de route et avec un costume cravate et qui fait penser à Travis sans la casquette rouge. Et d'ailleurs, vous avez toujours persévéré dans le noir et blanc.
C'est vrai que la mairie, j'ai photographié en noir et blanc. Peut-être qu'il faut. J'ai commencé en couleur là déjà, donc je vais m'y mettre en couleur. Mais c'est-à-dire que je vois mon évolution aussi. Au début, j'étais jeune reporter. Voilà, je couvre Nixon à la convention de Chicago. Ensuite, j'y retourne. Je fais une photographie beaucoup plus personnelle. Et puis après, en 99, j'y retourne. Et là, je fais des paysages. Chose qui n'était pas du tout ma discipline. Et je les fais en hauteur, en verticale, c'est hauteur. Et je vais dans un endroit que, bien sûr, touché par la cinématographie, je vais dans les Badlands. C'est un état au Dakota. D'ailleurs, je recommande tout le monde d'y aller. C'est magnifique. Et beaucoup moins connu que les autres parcs. C'est en hommage à Terrence Malick, bien sûr. Parce que Terrence Malick, son film de fin d'études, il a fait, qui s'appelle Badlands, magnifique. Et j'y vais et je fais des verticales. parce que j'avais vu Robert Adams faire déjà des verticales, des paysages verticales. Je me suis dit, il est gonflé quand même, faire des verticales. Il y a très peu de verticales en paysage. Et en fait, c'est une démarche qui casse un peu l'esthétique. Et en fait, voilà, j'y vais avec une chambre et je photographie les Badlands. Donc c'est, dans cette expérience américaine, en fait, il y a trois travaux différents, de 68 à 99, qui sont moi-même et qui sont aussi mon évolution et ma façon de d'évoluer toujours, d'avancer dans la photo, pas toujours faire la même.
Et qui sont aussi votre Amérique, l'Amérique à laquelle vous vouliez rendre hommage. Merci beaucoup Raymond Depardon, Depardon USA, donc votre livre de photographie, vous l'avez fait paraître fin juin aux éditions Xavier Barral, 76 clichés qu'on retrouve aussi à Arles jusqu'au 23 septembre. Merci Raymond Depardon.
Merci.